ToraBox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un enseignement de
Madame Vanessa Benzaken.
Bonne écoute et bon limoud.
Alors si elle n'est pas tout ça la discipline, alors elle est quoi? Alors, Rabbi Akiva nous avait donné cette petite phrase introductive qui dit la discipline, c'est un outil vital que le parent a l'obligation de prodiguer à l'enfant. Ce qui veut donc dire qu'ici, il y a une obligation du côté du parent et pas de l'enfant. Le parent, il a l'obligation de donner ce cli qui s'appelle la mishmat, la discipline à l'enfant, l'autorité, samkhutorit. Et il ne peut pas se permettre de dire, ouais, ça ne me dérange pas. Vous savez, il y a ce discours. Certains qui disent, mais ça ne me dérange pas moi, pourquoi lui dire non, ça ne me dérange pas moi. Moi, je répondrais à cette personne, je dirais, qui c'est qui t'a parlé de toi maintenant? On ne te parle pas de toi, on te parle de l'enfant. Toi, ça ne te dérange pas et tu es bien comme ça, copain, mais ce n'est pas bon pour lui. Alors tu es parent, c'est toi qui es responsable de lui. Donc il faut, tu ne peux pas te permettre de faire une chose pareille. D'accord? Et tu dois, oui, décider pour lui et tu dois, oui, être une samkhout. Comme je racontais à ma chère amie, avant de venir, il fallait faire prendre la douche à une des petites. Et elle n'avait pas envie. Ça arrive, ça adhère. Alors, quand elle n'a pas envie, on ne lui dit pas « Fais ce que tu veux, c'est pas grave. » Ça veut dire « Fais ce que tu veux, tu ne fais pas ce que tu veux. » D'un autre côté, c'est pas « Allez, maintenant, tu vas y aller par la force. » Non, non plus. D'accord? Non plus. Alors, on a fait une sorte de... Ça serait trop long à raconter, mais on a fait une sorte de masao-matan. C'est même pas de la négociation, c'est même pas ça. Mais c'est-à-dire une alternance de fermeté, de laisser un petit peu et de... C'est trop long à détailler. On verra ça plus dans le champ applicatif plus tard, Bezrat Hashem. Mais, sauf au chef d'avoir, à un certain moment, la petite, elle dit « Atlo machlita alay ». Vous connaissez cette phrase? Vous avez vu, ça s'entend chez moi. Elle, tu décides pas pour moi. Ce à quoi, j'ai répondu très calme. Je dis « Mais fadai shani machlita alay ». Baruch Hashem shani machlita alay. Maïe, ima horib lo ayu machlitim alay iladim. Maïe, em lo ayu metzartzechim shinaim. Hem lo ayu mitkalchim, après je traduis. Hem lo ayu yoshnim bazman. Oy vavoy, mes yeladim ayu machlitim levad. Baruch Hashem shani, ani chayevet leachlit bimkomech. Ce qui veut dire, je la traduis ou pas? C'était il y a une heure et demie environ. Ça veut dire donc, elle me dit, tu décides pas pour moi. Et moi je rentre pas maintenant. Vous savez très bien les réactions classiques du parent. Dans un cas comme ça, il se sent piqué, lui. Mais en fait, c'est bête, réfléchissez à la chose. Regarde, enlevez tout le maquillage. C'est bête. Tu sais, tu rentres au bac à sable avec l'enfant de 4 ans, je t'en supplie. C'est toi l'éducateur. Sors de là-bas. Il me remet en question. Mais il ne remet rien du tout en question. Mais tu crois que lui, de haut de ses 3 pommes, c'est lui qui va t'assigner ta place? Ribono shel olam. Ta place, elle t'a été donnée par le patron. Par Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a donné cette place. Elle n'est pas mise à prix, cette place. Elle ne doit pas être validée par le PDG de 5 ans. Est-ce que vous avez compris? Donc quand c'est comme ça que tu remets les choses à leur place, tu ne te sens pas du tout remis en question, mais alors pas du tout. Et tu ne te sens pas non plus fâché que l'enfant, c'est de l'effronterie de parler comme ça. Non, c'est d'air où l'on m'aide, il est en train d'apprendre cet apprentissage qui s'appelle se plier à une autorité qui lui est supérieure. D'accord? En taille, ça c'est sûr. Alors là-dessus, donc ma réaction... Elle est complètement neutre. Je ne me sens pas du tout remise en question ici. Je rentre pas du tout dans cette histoire-là, dans ce conflit. Elle me dit, tu décides pas? Je dis, mais si, bien sûr que je décide pour toi. Vous avez tout compris en hébreu, oui? Bien sûr, mais Baruch Hashem que je décide pour toi. Mais moi, en tant que ton parent, je suis obligée de décider pour toi. Regardez ce qu'on rentre ici. On rentre que la mechouyavut, elle est aussi pour moi. C'est pas maintenant Ani Alecha. C'est pas moi qui te domine ou qui t'impose. Et là que moi-même j'ai une imposition qui vient de plus haut, d'accord, pour te décider à ta place parce que c'est moi ton guide, c'est moi ton parent, je dois le faire. Et oh, il va voir si je le faisais pas. Est-ce que vous avez compris? Et le truc il s'est désamorcé. Il y a aussi des mamans qui me racontent que des enfants des fois ils font ça en version plus religieuse. Ils disent Atlo machlita Hashem machlit. Vous avez pas entendu des trucs comme ça? C'est pas toi qui décides, c'est Hachem qui m'achlite. Ce à quoi le parent il peut répondre, Tout simplement, et sans se fâcher, et sans faire une histoire de ça. Parce qu'en plus, maintenant, il lui a mis en porte-à-faux avec Hachem. Attends, ça rigole pas, là. Oui. Il peut répondre tout simplement, « Ata tzodek, Hachem machlit, ve'u ichlit, shanitzra, lechanechotra. » C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de me donner ce rôle de t'éduquer, de te faire grandir. Est-ce que vous comprenez que c'est très facile de sortir de ce genre de choses-là si on ne prend pas personnellement? Si on se met à prendre personnellement, ça y est, c'est fichu, c'est le rapport de force, et ça ne va pas aller. D'accord? Ce sont des petits exemples. À tout âge, il ne faut pas rentrer en rapport de force. C'est quand il a 16 ans et demi. Ah, on fait flashback sur l'adolescence, on ne peut pas, on n'a pas le temps.
Non, mais jusqu'à quel âge? Parce que 4 ans, c'est évident, mais je veux dire, 7-8 ans déjà, ça dépend des sujets, c'est pas toujours...
En toute situation, il faut ne pas rentrer en rapport de force. Vous allez voir, Pesach Hashem, on va détailler, que le rapport de force est l'ennemi numéro 1 de la discipline. Certains pensaient que l'ennemi numéro un de la discipline, c'est la désobéissance. La sagesse populaire, tu demandes aux gens, tu fais un sondage, tu leur dis c'est quoi le contraire exact de la discipline? Ils vont te dire la désobéissance. Moi, je vais vous dire non. Et vous allez voir, je ne vais pas le dire gratuitement, on va l'affirmer, on va le prouver, on va le décortiquer. Je dis l'ennemi numéro un de la discipline, c'est le rapport de force. Chaque fois qu'il y a un rapport de force, on a perdu du terrain dans la discipline. Par contre, quand il y a une désobéissance, vous verrez, c'est pas du tout encore joué. On verra bien comment on doit gérer ça, les Hachem. Mais surtout pas dans le rapport de force. Ok? Arshav, donc c'est un outil que le parent il a l'obligation de prodiguer à l'enfant. C'est lui qui a l'obligation de son côté. Il doit lui prodiguer les ha'anik en hébreu. C'est un lachon de chesed, comme vous savez toutes. Ce qui veut donc dire que mishmat, c'est chesed sheba gvura. La mishmat, la discipline, c'est le chesed qu'il y a dans le côté ferme extérieur de la discipline. C'est en vérité complètement rempli de chesed. C'est pour ça que je vous disais, les intentions qu'on a, elles sont très importantes. Parce que si quelqu'un il veut mettre de la discipline pour que ça tourne mieux chez lui, il est loin du compte. Si quelqu'un il veut mieux manipuler les enfants et mieux les cerner, et mieux les manipuler à distance pour que ça tourne mieux chez lui, lui aussi il est à côté de la plaque. Là on est en train de dire, c'est un outil vital, tu ne peux pas le priver de ça, et c'est pour son bien à lui, et tu ne peux pas faire l'économie de cette chose-là en disant, moi ça m'arrange et moi ça ne me dérange pas. Tu ne peux pas faire ça. Même si ça ne te dérange pas à toi, qu'il marche sur ta tête, tu ne peux pas lui faire ce sale coup à l'enfant. Voilà ce que je suis en train de dire. D'accord? Alors, nous, on va rajouter par-dessus ça, un autre méma d'une autre dimension supplémentaire qui n'existe pas à l'extérieur, qui est que la discipline, elle est la première préparation à la Yirat Shamaï. C'est-à-dire que on pensait peut-être que la faculté de Yirat Shamaï, la crainte du ciel, c'était une faculté tout simplement spirituelle. Mais en vérité, il y a des ponts de liaison entre le monde spirituel, le monde du Nefesh, il y a toutes sortes de liaisons entre toutes ces dimensions qui font que on va dire la silhouette psychologique de base qui est propice à recevoir la Yirat Shamaï, c'est celle de quelqu'un qui a reçu de la discipline. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à recevoir parce que on ne voit pas très bien le rapport. Ici, c'est la discipline avec les parents, la Yirat Shamaï, c'est avec Dieu. Mais il faut bien comprendre une chose. Pour un enfant, Dieu, c'est un concept abstrait. Or, tant qu'il n'est pas bardat, tout ce qui est abstrait, ça échappe à son champ de conscience. Donc il peut pas concevoir de quoi il s'agit. Donc son passage chez ses parents, ils sont une sorte de préparation où il va s'habituer à vivre dans un système où il y a une autorité supérieure auquel on doit des comptes et auquel on doit s'habituer à se plier. Étant passé par cette préparation dans le contexte humain, il a maintenant, on lui a forgé une sorte de silhouette psychologique qui est complètement prête à recevoir la dimension qui est supérieure plus tard, qui s'appelle Yirat Shamaï, qui s'appelle la crainte du ciel. C'est ce qui fait que cet individu, en situation, il ne va pas se contenter juste de pratiquer les mitzvot, mais il va être capable de se retenir, il va être capable, même quand il n'a pas envie de faire ce qu'il doit faire, il va être capable, dans des situations extrêmement difficiles, de se contenir. Toute cette faculté-là de Yirat Shamaï, si je la traduis dans un langage beaucoup plus simple, c'est la faculté de self-control. Tout simplement. Maintenant, ce self-control, vous allez voir qu'il est directement lié au fait que l'enfant il grandit dans un environnement où il y a une samchut orit, où il y a une autorité parentale. Et quand il n'y a pas, ou qu'elle est très très faible, ça crée des dysfonctionnements et des problèmes là-bas. C'est très intéressant de constater que les meafienim, les caractéristiques de ADHD, qui se traduit en français par les problèmes d'hyperactivité et de problèmes de concentration, lorsqu'on voit la liste des meafienim, des caractéristiques, ça se résume beaucoup à des problèmes de shlita, à des problèmes de maîtrise de soi. Problèmes d'achyanout, comme on appelle ça, de repousser les choses à plus tard, problèmes de désorganisation, des problèmes d'hyperactivité, bichlal, d'agitation qui n'est pas contrôlée. Finalement, un peu tout converge vers quoi ? Mishmaat atzmit, autodiscipline. La concentration, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans ? Ben réfléchissez à la chose. C'est quoi la concentration ? Le Rav Moshe Boyer, il nous a dit une fois, la concentration, c'est amal. C'est koach amal. C'est la force de l'effort. C'est rien d'autre que ça. Se concentrer, ça demande quoi ? Un gros, gros, gros effort. D'ailleurs, le Rav Boyer, il nous disait presque en forme de blague, il nous disait aujourd'hui, on est une génération qui a tous un petit peu de ADHD, tous un petit peu de problème de concentration. Parce qu'en ayant porté un coup sur la notion d'autodiscipline, d'autorité supérieure auquel tu dois des comptes, même quand tu n'as pas envie, en ayant porté un coup sur ça, en disant il est interdit d'interdire, on fait ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. Ça crée quoi comme individu ? Juste, regardez, c'est tellement parallèle et clair. ADHD. Vous avez compris, attention, hyperactivity disorder, attention deficit. Mais c'est très clair. C'est très clair. Alors je sais qu'aujourd'hui, ce que je dis n'est pas forcément la thèse qui est en cours. La thèse en cours, c'est que c'est Torah-Shti. Comment on dit ça ? Génétique. Moi, je dis... Mais je suis seule à le dire, hein. Ça viendra peut-être, j'en sais rien. Moi, j'en ris. Vous savez pourquoi j'en ris ? Parce que j'appelle ça une thèse commerciale. Ça fait... Bien sûr.
Mais, excusez-moi, je veux dire, c'est vrai ce que vous dites, parce que avant, dans les générations précédentes, il n'y avait pas...
Alors, j'ai posé la question à un neurologue. J'ai dit, mais écoutez, excusez-moi, mais ça ne tient pas tellement la route. Il m'a dit, mais non, parce qu'avant, on ne savait pas être meafrenetze. Parce qu'avant, on ne savait pas le diagnostiquer. Alors, vous savez, après, c'est le chat qui se mord la queue, on ne finit jamais. Hein. Et puis, après tout, moi, ce que je vous dis, ce n'est pas coercitif, c'est une opinion personnelle. Torashti, my eye. Ça s'appelle, pour moi, ce qui s'appelle un produit commercial. Pourquoi ? Parce que Torashti, génétique, c'est fini. On a reporté le problème à des choses qui ne nous dépendent pas de nous, sur lesquels on n'a pas de prise, et que finalement, bah, on y est pour rien, on n'y peut rien. Et puis c'est tout. Comprenez ? Alors si certains ils me disent, oui, mais enfin, ça affecte des capacités physiologiques, enfin neurologiques, vous n'allez quand même pas me dire que s'il y a des traitements qui sont pris, j'ai pas prévu de parler de ça ce soir, mais il se trouve que, voilà. S'il y a des traitements qui sont pris, quand même, qui agissent sur le cerveau lui-même, c'est que donc bien, il s'agit de quelque chose de neurologique, physiologique. Et moi je vous dis, mais on ne sait pas encore combien il y a de ponts et de passerelles entre le rikshi et le neurologique et le physiologique. En fait, la médecine conventionnelle, elle s'adresse à l'être humain comme une voiture, comme elle dit ma mère. Ibria. Il voit ça comme une voiture. Il y a le système hydraulique en panne, tu soignes le système hydraulique. Il y a les pistons du moteur en panne, tu soignes les pistons du moteur. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à une vision un peu plus holistique de la chose. C'est-à-dire qu'on comprend très bien qu'il y a des passerelles très étroites entre le monde physiologique et le monde psychologique et le monde... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Voilà, c'est évident. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à le prouver très clairement, mais on peut très bien prouver qu'une émotion très très forte, elle fait que la personne, elle prend une bronchite demain. Rasbé shalom, ça veut dire qu'on comprend bien que le monde physiologique, le monde psychologique, les émotions, tout va ensemble. Donc, en quoi ça serait un problème de voir que ça ait des incidences au niveau neurologique et même physiologique ? Tout est lié. Tout est lié. Le Rav Yaakovson lui-même, il a dit dans un shiur que les problèmes de concentration de Keshev et Rikouz, il a dit, il y en a, il dit, c'est à cause du sucre, c'est à cause de ceci, et à cause de cela. Parce qu'il tâtonne. C'est ça que je vous explique depuis le début. Le monde scientifique, son travail, c'est tâtonner. Il tâtonne. Et c'est des postulats. Jusqu'à qu'on n'a pas prouvé que c'est faux, c'est vrai. Et celui qui dit que c'est faux, il est hors de l'académie. D'accord ? C'est comme ça. Donc, je ne m'impressionne pas du tout des conclusions académiques parce que je sais que c'est une question de temps. C'est pas un émet absoluti. C'est pas une vérité absolue. Et là que c'est tokef. C'est en vigueur pour l'instant. D'accord. Vous avez très bien vu comment la psychologie elle a évolué. La psychologie freudienne, si à l'époque quelqu'un disait « Freud, c'est pas bien », il était un imbécile, il était excommunié. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est au chesed de Freud ? Fini. Akol kacha mishtane. Tout bouge parce qu'il s'agit de vérités temporelles qui sont pas ça s'appelle pas le référentiel éternel qu'est la Torah. Ça va être dur. Non, je disais simplement qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un problème Torah. Le Rav Yaakovson, lui, qu'est-ce qu'il a dit de ça ? Il a dit, il y en a qui ont dit, c'est le sucre, et l'alimentation, et ceci et cela, toutes sortes de causes. Il a dit, je m'excuse de décevoir le public. Il dit, à mon sens, c'est le système relationnel entre parents et enfants déficient qui a causé ces problèmes-là. Maintenant, vous allez me dire, mais nous, on est gentils, on n'est pas déficients, alors pourquoi on a ces problèmes-là ? Parce que c'est un phénomène de société. D'accord ? Aujourd'hui, si je fais une globalisation très très large, au lieu d'avoir Mishmat Bria ve'ahava meruba, yesh lanu choser Mishmat ve'bikoret. Je fais vraiment une globalisation très sauvage. Et au lieu d'avoir un creuset où il y a des règles et une autorité parentale très claire, et de l'amour inconditionnel distribué en abondance, on aboutit à une situation, c'est pas de notre faute à nous, c'est un phénomène de société, on aboutit à une situation où la samkhoutorite, elle est à la panie, comment on dit ça, l'autorité parentale, elle est très fatiguée, ouais, et le niveau de qualité relationnelle, le niveau de proximité affective, il est faible aussi, il est devenu un peu conditionnel, toutes sortes de choses, d'accord. Maintenant, dans un cadre comme celui-là, Zeshetarporia, ça s'appelle un terrain fertile pour causer des dysfonctionnements derrière. Et à mon sens, ça me paraît très transparent que ces dysfonctionnements-là derrière, ils correspondent comme un miroir aux faiblesses au niveau du système relationnel entre parents et enfants. Mais ça se vend pas, ce que je vous dis là, vous le gardez entre nous. Ça se vend pas. C'est trop difficile. Et moi, je vous dis, et pourquoi pas ? On peut très bien prendre les choses comme elles sont et commencer à traiter ça et commencer à améliorer là-bas. Au moins, on avance sur le bon chemin et on ne traite pas les choses de façon sur le côté. D'accord ? Maintenant, étant donné que c'est tellement large, cette norme-là de société où il y a effectivement des manques dans la relation entre parents et enfants, alors aujourd'hui, un petit peu tout le monde est concerné par ces histoires de... Keshev et Rikouz. Maintenant, c'est vrai que ça, il y a des niveaux, évidemment. Il y en a, c'est un petit problème de concentration. Il y en a d'autres, c'est vraiment très fort ADHD. Il y a toutes sortes de choses.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés. Et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'article. À bientôt.